Donc sur ce, nous retournons dans l'évangile de Luc. Nous allons lire des versets 5 au verset 25 pour la prédication aujourd'hui. Donc nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, entré dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Parole du Seigneur. Amen. J'ai intitulé ce message « Le Dieu qui se souvient ». Le Dieu qui se souvient. Et étant donné que nous sommes, vous allez remarquer qu'il y a une bougie qui est allumée, c'est le premier dimanche de l'Avent, donc on pense à l'Avent de la miséricorde. Donc le récit de Luc ne commence pas avec des anges chantant dans les campagnes, ni avec Marie recevant l'annonce glorieuse qu'elle portera le Fils de Dieu. L'évangile ne commence pas ici dans la lumière. Il commence dans un silence. Un silence qui est pesant. Un silence qui est douloureux. Un silence qui dure depuis 4 siècles. Depuis le prophète Malachi, comme nous l'avons lu, la parole de Dieu ne s'était plus faite entendre. Israël attendait, Israël espérait. Mais rien ne venait. Et l'évangile commence justement là où la lumière semble absente. Dans le temple, avec un vieux prêtre fatigué, un couple qui est stérile, un peuple découragé et un monde dominé par un roi qui est tyrannique. Luc ici veut nous rappeler que les grandes œuvres de Dieu naissent souvent dans les lieux où tout semble impossible. Zacharie et Élisabeth représentent des croyants fidèles, droits devant Dieu, mais portant une souffrance silencieuse qui semble contredire leurs prières. Ils ont servi Dieu, ils ont marché dans la vérité, et pourtant leur prière pour un enfant n'a jamais été exaucée. Ils sont âgés. Le temps des hommes est écoulé. L'espoir semble derrière eux. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que la bonne nouvelle commence. Quand Dieu se tait, il n'est jamais absent. Lorsque Dieu se tait, il n'est jamais absent. Il est omniprésent. Il est là, il est avec nous. Et Dieu prépare ses plus grandes grâces dans le secret de son silence. Et c'est exactement ce que ce passage va révéler. Derrière le silence apparent, Dieu prépare la naissance d'un homme qui deviendra le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste, celui qui doit, lui, annoncer la venue du Messie. Et donc mon premier point, des versets 5 au verset 10, un cadre sombre, mais un couple fidèle. Et donc, Luc commence par parler d'Hérode. Hérode le Grand était un roi imposé par Rome. Un roi iduméen, c'est-à-dire d'origine étrangère. Ce n'était pas un descendant de David, c'était un homme qui était cruel, un homme qui était violent, et puis il était aussi un paranoïaque. Son règne était marqué par la peur, par les complots, par le sang. C'est lui qui fera massacrer les enfants à Bethléem. Et donc, dans le contexte où nous sommes, Israël vit un temps de confusion. La domination romaine pèse sur le peuple. Les chefs religieux sont souvent compromis. Les pharisiens ajoutent tradition humaine à la loi de Dieu. Et les sadducéens, donc l'aristocratie sacerdotale, sont plus rationalistes. Et donc Luc place immédiatement son récit dans un contexte de violence politique, de décadence morale et d'appauvrissement spirituel. Hérode est un tyran. Il assassine sa propre famille, manipule le peuple, favorise le syncrétisme religieux. Il impose sa terreur. Dans un tel climat, beaucoup auraient pu penser que Dieu avait tourné son regard ailleurs. Que Dieu n'écoutait plus les prières, que Dieu avait rejeté son peuple. Et surtout, il n'y a pas eu de prophète depuis Malachie. Et le ciel semble très, très silencieux. Mais Luc ici veut nous rappeler que même sous le règne d'un tyran, Dieu continue de faire avancer son plan. Luc nous rappelle que l'histoire du salut ne dépend jamais des royaumes humains. Ne dépend jamais de ce que les humains vivent ou pensent, ou des plans que les humains se font. Luc nous présente un homme nommé Zacharie de la classe d'Abia et sa femme Élisabeth, descendante d'Aaron. Le verset 6 ici est très important, où nous lisons « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Le mot grec pour « juste » signifie des gens qui vivent dans la droiture, qui vivent dans l'alliance, qui vivent dans la fidélité à la loi de Dieu. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Mais ils sont cohérents. Leur foi se traduit dans leur vie. Et Luc rajoute qu'ils sont irréprochables. Cela signifie qu'on ne pouvait rien trouver de flagrant dans leur conduite. Leur piété n'était pas seulement extérieure, mais elle était aussi intérieure. Dieu qui justifie par grâce seule, œuvre aussi réellement dans la vie de ses enfants pour les amener à marcher dans l'obéissance. Et c'est une œuvre divine, c'est une œuvre de Dieu dans le cœur de ses enfants. Mais ici, le verset 7 introduit une certaine tension. Nous lisons, ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Le mot stérile est utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament pour Sarah, pour Rebecca, pour Rachel, pour Anne. Et toutes les femmes à travers lesquelles Dieu a manifesté sa puissance en donnant un enfant contre toute attente. Luc laisse entendre qu'il y a un motif ici biblique qui est bien connu. Dieu aime faire naître la vie là où il n'y a plus d'espérance humaine, là où il n'y a plus d'espoir, là où nous avons tourné nos regards ailleurs. Dieu, lui, il est fidèle. Dieu n'oublie pas les prières. Cette juxtaposition est intentionnelle. C'est-à-dire que la fidélité de Dieu n'est pas proportionnelle à notre perception des bénédictions visibles. Ce n'est pas parce qu'on marche droit, qu'on obéit à Dieu, qu'il nous bénit sur le champ. Beaucoup auraient pensé qu'Élisabeth était sous un jugement. Mais Luc insiste, ils étaient juste devant Dieu. Richard Phillips, dans ses commentaires, écrit « Luc veut renverser l'idée que la souffrance est un signe de désapprobation divine. L'absence d'enfant n'est pas l'absence de grâce, non. » Pour Élisabeth, la stérilité est une honte. Comme elle le dira au verset 25. Pour Zacharie, c'est une prière qui a peut-être été répétée des centaines de fois, puis, peu à peu, a abandonné de prier. Les deux sont âgés maintenant. Et humainement, c'est impossible. Humainement, c'est trop tard. Et pourtant, Luc insiste qu'ils étaient justes, irréprochables, mais stériles. Frères et sœurs, ce n'est pas un manque de foi. n'est pas un manque de foi qui explique leur souffrance. Ce n'est pas un péché secret qui explique les preuves qu'ils sont en train de traverser. On peut être fidèle à Dieu et pourtant traverser des épreuves longues, des épreuves incompréhensibles, des épreuves aussi douloureuses. Attention, Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance. Non. Mais il nous promet sa présence et sa fidélité au milieu de la souffrance. Amen. Cela signifie que nos déceptions, nos attentes, nos prières non exaucées ne sont pas la preuve que Dieu nous rejette. Jean Calvin ajoute que Dieu éprouve ses enfants pour les préparer à des bénédictions plus grandes que ce qu'ils imaginent. La confiance en notre Dieu. Malgré les épreuves, les difficultés, malgré ce qui semble pour nous impossible, mais est possible à Dieu. Nos plans ne sont pas au-dessus de ses plans. Lui sait ce dont nous avons besoin et il agit au moment opportun. Parce que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Verset 8 et verset 9, nous lisons. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Les prêtres, c'est dans 1 Chronique 24, je pense que c'est dans les premiers versets, les prêtres étaient repartis en 24 classes. Chaque classe servait deux fois par an à Jérusalem. Parmi ces prêtres, le tirage au sort désignait celui qui offrirait l'encens dans le lieu saint. Et c'était souvent l'unique fois de sa vie où un prêtre vivait cela. Et théologiquement, l'encens représente les prières qui montent vers Dieu. Nous le voyons au psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et mes mains tendues comme l'offrande du soir. Luc souligne que ce moment est chargé de symbolisme. On a un prêtre qui est juste à l'intérieur du sanctuaire, offrant de l'encens, à l'extérieur, le peuple en prière. Et tout cela dans un temps où l'on attend toujours la consolation d'Israël. C'est comme si Luc écrivait, voici un moment où toutes les attentes de l'Ancien Testament se concentrent. Un prêtre, un temple, lançant la prière, le peuple. Et donc, Dieu va répondre. Zacharie accomplit son service sacerdotal. Il ne vit pas un miracle ce jour-là, il ne s'attend pas à une visitation angélique. Il fait simplement ce que Dieu lui demande, c'est qu'il le sert. Il le sert fidèlement. Et c'est là que Dieu intervient. Sinclair Ferguson écrit que Dieu visite souvent son peuple dans les lieux où il persévère, non dans les lieux où il s'exalte. Zacharie persévérait dans son service. Même si ses prières n'étaient pas exaucées, il persévérait dans son service. Et donc le moment où Zacharie entre pour offrir l'encens, c'était un moment sacré. Seul un prêtre était choisi par tirage au sort. Certains servaient toute leur vie sans jamais être choisis. C'était un moment unique dans sa vie. Dieu choisit ce moment précis, non pas parce que Zacharie s'attend à quelque chose, mais parce que s'accomplit la volonté de Dieu en son temps. Et le verset 10, « Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. » Tout le peuple. Cette attente n'est pas seulement une attente individuelle. C'est une attente qui est communautaire. Le peuple prie, le peuple attend, le peuple espère. L'exaucement accordé à Zacharie aura une portée bien plus large qu'un simple enfant qui l'attendait. Il concerne le plan de Dieu pour toute la nation au-delà et pour le monde. Ce n'était plus uniquement Zacharie, mais c'était un plan universel. Le plan de Dieu. Mon deuxième point, des versets 11 au verset 17, la visitation angélique. Nous lisons des versets 11 au verset 12. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. On va remarquer ici que la position à droite évoque une certaine faveur à droite du Père. La légitimité de la personne qui est envoyée. La réaction de Zacharie est typique à toutes les théophanies et manifestations angéliques dans la Bible. C'est-à-dire la peur, la frayeur. Devant la sainteté de Dieu, même un homme juste est bouleversé. Et donc la première parole de l'ange est « Ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. » C'est une parole de grâce. Avant même d'annoncer quoi que ce soit, Dieu apaise la peur. Dieu apaise la peur de Zacharie. Et nous retrouvons cette même formule chez Marie, chez les bergers. L'évangile, la bonne nouvelle commence toujours par lever la peur. Car ta prière a été exaucée. Verset 13. Le verbe grec utilisé ici exprime l'idée d'une prière non seulement entendue, mais acceptée et prise en compte. Il est possible que Zacharie ait cessé depuis longtemps de prier pour un enfant. Vu son âge, il s'est découragé. Certains commentateurs pensent qu'il priait plutôt pour la délivrance d'Israël, pour la venue du Messie. 5 Ferguson note que Dieu répond souvent à nos prières d'une manière inattendue, mais toujours selon sa sagesse parfaite. En réalité, Dieu ici réunit les deux prières. Dieu lui donne un fils, et ce fils sera celui qui annonce la venue du Messie. Dieu lui donne un fils, mais ce fils va être un héros, un messager, qui va annoncer le Messie. Notre Dieu répond souvent à nos prières d'une manière plus profonde et plus large que ce que nous avions imaginé. Il répond à la souffrance personnelle de Zacharie et Élisabeth, tout en inscrivant cette réponse dans le grand plan du salut. Des versets 13 au verset 17 où nous lisons « Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Plusieurs éléments ici méritent une attention spéciale. Le nom Jean, qui signifie « Dieu fait grâce ». Le choix du nom ici est significatif. Ce n'est pas Zacharie qui choisit, c'est Dieu qui nomme. Et dans la Bible, quand Dieu nomme quelqu'un, c'est qu'il lui confie une mission. Dieu fait grâce. Ce n'est pas simplement une faveur accordée à Zacharie et Élisabeth, c'est le message de son ministère. Car il sera grand devant le Seigneur. Luc ne dit pas qu'il sera célèbre devant les hommes. Non. Mais grand devant le Seigneur. La vraie grandeur, selon Dieu, c'est la fidélité, c'est l'obéissance, c'est l'humilité. Pourtant, Jésus dira plus tard, en Matthieu 11, verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et nous voyons ici par la suite, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. C'est-à-dire une consécration spéciale. Cela rappelle le vœu de Naziréa dans Nombre 6. Jean est mis à part pour un ministère prophétique. Sa vie elle-même sera un signe de rupture avec les compromis du temps. Nous voyons aussi qu'il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est une expression très forte ici. Avant même sa naissance, Jean est déjà mis à part. Avant sa naissance. Jean est mis à part, il est équipé, il est habité par l'Esprit pour sa mission. Et cela nous rappelle que le salut et l'appel au ministère sont des œuvres souveraines de Dieu et qui précèdent notre réponse. Au verset 16, verset 17, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et ici, l'ange fait clairement écho à Malachie. Malachie 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. » Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Et donc on voit que Jean est bien dans la lignée prophétique de l'Ancien Testament. Le texte grec parle de Jean qui marche dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il ne s'agit pas ici d'une réincarnation, mais d'une continuité prophétique. Donc, le même courage, le même appel à la repentance, même confrontation avec des peuples infidèles. Et donc, la mission de Jean se résume en trois expressions. Premièrement, ramener. Comme on l'a vu dans Osée, c'est le langage de la repentance, de la conversion. Le verbe retourner est le même que celui de la repentance. Se détourner du péché pour revenir vers Dieu. Deuxièmement, la mission de Jean, c'est de ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et donc, c'est une allusion ici à Malachie. La repentance produit aussi une restauration des relations familiales, le réveil spirituel et des fruits concrets dans les foyers et dans l'église. Et enfin, troisième mission, préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et l'expression grecque suggère un peuple préparé, un peuple équipé, un peuple qui est droit, arrangé, intérieurement, pour recevoir la venue du Seigneur. Jean est la voix qui annonce l'entrée en scène du médiateur de la nouvelle alliance, Jésus-Christ. Dieu nous appelle à avoir un cœur prêt à cette rencontre avec notre Seigneur. Dieu nous appelle à la repentance concrète. Dieu nous appelle à être un peuple qui prépare la venue du Seigneur. Dieu nous appelle à écouter sa parole au milieu du bruit du monde. Dieu nous appelle à être fidèles à sa parole. Mon troisième point, le doute de Zacharie. Au verset 18, nous lisons, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » La question de Zacharie ici ressemble beaucoup à celle d'Abraham. En Genèse 17, verset 10, Genèse 17, 17 à 18, où nous lisons, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Mais la différence, c'est que l'ange répond ici avec une certaine fermeté. Zacharie ne demande pas seulement un signe, il exprime un doute devant la promesse déjà clairement donnée. Ici, le contraste est frappant. D'un côté, la grandeur de la parole de Dieu et des promesses de sa puissance. Deuxièmement, le regard humain qui se fixe sur l'âge, sur les limites, sur le réalisme. Zacharie est un croyant fidèle, mais il a mal à croire. Il a du mal à croire que Dieu peut agir au-delà de ce qui est humainement possible. Et nous, combien de fois faisons-nous de même? Nous prions, mais nous doutons toujours. Même lorsqu'on va devant le trône de la grâce pour prier. Mais nos limitations humaines font que nous doutons toujours. C'est trop tard, c'est trop difficile. La réponse de l'ange ici est une discipline et une pédagogie pour nous. Du verset 18 au verset 19, où nous lisons, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Remarquons des éléments clés ici. Je suis Gabriel. Gabriel apparaît déjà en Daniel, on l'a vu, Daniel, les chapitres 8 et chapitre 9 aussi, pour annoncer de grands événements liés au plan de Dieu. Gabriel est le messager des temps décisifs. Et nous voyons aussi qu'il dit que je me tiens devant Dieu. Il vient de la présence immédiate de Dieu. Il porte une parole directe, certaine et irrévocable. Et nous voyons ici la discipline. Zacharie sera muet jusqu'à l'accomplissement. La cause est clairement donnée, parce que tu n'as pas cru. Mais notez bien ici, l'ange ne dit pas, puisque tu n'as pas cru, Dieu retire sa promesse. Non. Il dit, tu seras muet, mais ces choses s'accompliront en leur temps. Et c'est là où on voit la fidélité de Dieu, hein, dans ses promesses. Ce n'est pas un Dieu qui fait marche arrière, non. C'est un Dieu qui est constant. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui n'a pas de sentiment qui est fluctuant comme les nôtres. La discipline n'annule pas la grâce. Elle sert la grâce. Dieu ne renonce pas à son plan à cause de l'incrédulité de Zacharie, mais il va utiliser ce temps de silence pour travailler son cœur. Verset 21, verset 22, nous lisons « Cependant le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. » Le peuple ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais il perçoit que Dieu a fait quelque chose. Le silence de Zacharie devient en lui-même un signe. Il ne peut plus parler, mais sa mutité prêche. Dieu a parlé et il accomplira ce qu'il a dit. Verset 23, verset 25. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Notons ici, lorsque ses jours de service furent écoulés, Dieu accomplit aussi ses promesses selon son calendrier, qui n'est pas le nôtre. Rien ne s'est passé avant le temps, mais tout s'est passé au temps fixé. Elle se cacha pendant 5 mois. Ce retrait peut être compris comme une forme de pudeur, de méditation ou de contemplation. Élisabeth vit ce miracle d'abord devant Dieu dans la discrétion. Elle le vit toute seule, avant de le rendre public. Et sa confession de foi, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Elle est reconnaissante. Elle reconnaît la main de Dieu. Elle ne dit pas, enfin, c'est mon droit. Non, c'est la grâce de Dieu. Et nous voyons ici une femme profondément marquée par la grâce. Elle voit la main de Dieu, elle reconnaît sa miséricorde. La première réponse de la foi ne devrait pas être pour nous une analyse, des spéculations, mais de reconnaître la main de Dieu et de lui rendre grâce en toutes circonstances. Notre faiblesse n'empêche pas Dieu d'agir. Notre doute n'annule pas la fidélité de Dieu. Dieu accomplit ses promesses en son temps. Dieu transforme nos silences en lieu de sanctification. La théologie d'Élisabeth ici est simple, mais juste. Dieu a vu ma honte. Il a jeté les yeux sur moi et il a agi. Cela annonce déjà l'évangile que Marie chantera en Luc 1, 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Quelques applications pour nous. Dieu se souvient de nos prières. Même celles que nous avons oubliées. Cette parole, ta prière a été exaucée, elle est bouleversante. Il se peut que Zacharie ne disait plus depuis longtemps, « Seigneur, donne-nous un enfant !» Mais Dieu n'avait pas oublié cette prière. Il les avait gardées. Peut-être que nous prions pour des enfants. Nous prions pour des proches qui ne connaissent pas le Seigneur depuis des années. Autour de nous. Nous prions pour une situation spécifique dans notre vie. Et que nous avons peut-être oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Nous persévérons dans la prière. Dieu n'oublie pas. Ce texte vient nous dire, Dieu n'a pas oublié. Attention, cela ne veut pas dire qu'il répond toujours comme nous voulons, mais il répond en son temps. Dieu est libre, mais il est fidèle, et aucune prière sincère n'est perdue devant lui. Deuxième application, Dieu prépare un peuple bien disposé. La mission de Jean est de préparer les cœurs. L'Avent, avant Noël, pour nous, est aussi un temps de préparation. Un temps de préparation à célébrer Noël, non pas comme une fête superficielle, mais comme la venue de notre roi, du roi des rois. Une préparation à écouter la parole avec un cœur repentant. Une préparation à vivre comme des témoins dans ce monde. Notre Dieu se forme un peuple, il se forme une église pour être le royaume du Fils de son amour. Jean prépare les cœurs à l'arrivée du roi. L'église aujourd'hui est appelée à préparer le monde à son retour. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église de préparer le cœur au retour du Christ. Pour finir, nous avons vu aujourd'hui un couple fidèle, mais brisé. Un service ordinaire dans un temple. Une visitation extraordinaire de Dieu, un doute, une discipline, une grâce, une femme qui s'écrie, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et au-dessus de tout cela, nous avons vu un Dieu qui se souvient. Il se souvient de ses promesses, il se souvient de son peuple, il se souvient de la Trinité. Il se souvient des enfants. Il se souvient de tout ce que nous traversons. et de tout ce que nous vivons. Dieu se souvient de nos prières anciennes. Et en ce premier dimanche de l'Avent, alors que nous attendons et célébrons la venue de Jésus-Christ, ce message nous appelle à renouveler notre confiance en ce Dieu qui est fidèle. Nous avons une foi fluctuante, mais Dieu, lui, il a une fidélité qui est constante. Il ne change pas. Que ce message ravive en nous l'espérance, qu'il ranime notre foi là où elle s'est affaiblie, qu'il nous délivre du fatalisme et de la résignation, qu'il nous apprenne à attendre Dieu, même dans le silence, en sachant qu'il ne nous oublie jamais. Que ce message nous dispose à accueillir Jésus-Christ avec des cœurs préparés, avec des cœurs repentants, avec des cœurs confiants, et que nous puissions dire, nous aussi comme Élisabeth, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance, dès maintenant et à jamais. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité éternelle. Comme tu t'es souvenu de Zacharie et d'Élisabeth, Seigneur, nous te prions de te souvenir de nous aujourd'hui. Dans nos silences, que tu puisses parler. Dans nos attentes, dans nos multiples attentes, fortifie-nous. Dans nos faiblesses éternelles, accomplis ta grâce. Prépare nos cœurs à recevoir ton Fils. La lumière qui brille dans les ténèbres, lui qui est la consolation d'Israël, la joie de ton peuple, la joie de ton Église, Seigneur. Je te prie, Éternel, par ta grâce, de faire de notre Église un peuple qui est prêt. Un peuple qui marche dans l'espérance. Un peuple qui attend avec confiance le retour glorieux de Jésus-Christ. Merci Éternel notre Dieu. Merci pour la réponse aux prières. Merci pour ton amour envers ton Église. Pour cet amour inconditionnel. Que toute la gloire et toute l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous te prions. Amen.